Alors, sur ces questions d'horizontalité, évidemment, il y a une question évidemment qui se pose, puisqu'évidemment, on a tendance à penser l'horizontalité de ces mouvements contre la verticalité du pouvoir. Et évidemment, dans cette opposition, ou même dans cette asymétrie, il se pose la question de savoir qui est avantagé par l'horizontalité versus verticalité, ou au contraire. Voilà. C'est une hypothèse là qui est à travailler, qui est fondamentalement celle qui intéresse finalement ces mouvements leaderless. Alors je ne vais pas beaucoup développer le mouvement leaderless, puisque Yves va le faire dans un deuxième temps, hein, il va un peu théoriser et cadrer. Moi je me suis contenté d'un parallèle entre la Tunisie et, puisque j'ai travaillé pendant longtemps, le soulèvement tunisien, c'est-à-dire le 29 jours entre l'immolation de Mohamed Bouazizi et la fuite de Ben Ali. Et puis Yves élargira la comparaison à d'autres expériences comme Maïdan, Taksim, le Brésil, tout ça. Hein. Alors, je veux encore dire que dans cette histoire d'horizontalité, de verticalité, de mouvement leaderless, le soulèvement tunisien est à proprement parler leaderless. On aura probablement une discussion ici pour savoir si le mouvement des Gilets jaunes est véritablement un mouvement leaderless. Il me semble qu'il y a quand même la figure des d'influenceurs qui apparaissent, qui ne sont pas vraiment des leaders, mais qui sont quand même des gens qui, comme le mot l'indique, sont une influence. Je sais qu'Yves travaille depuis longtemps sur les questions d'influence, et donc je suis sûr qu'il va de toute façon développer ça et spontanément après. Alors je veux encore dire qu'évidemment dans cette histoire, je l'avais déjà dit le premier jour, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là dans la séance où on s'était présenté. Évidemment, dans un mouvement qui est conflictuel, on ne peut pas saisir la dynamique du mouvement si on n'analyse pas aussi le côté du pouvoir. On ne peut pas simplement analyser le côté des Gilets jaunes. Il y a évidemment une relation, une interaction conflictuelle entre les deux. J'attire votre attention, pour ceux qui travaillent ici, qu'il y a des livres qui vont bientôt sortir. Nous, on n'a pas travaillé sur le pouvoir. Je pense qu'en ce moment, ici, personne dans l'atelier travaille sur le pouvoir. Il faudra en tout cas faire attention aux livres qui vont sortir, en particulier s'il y a des interviews d'acteurs, d'influenceurs, de ministres, etc. Ben ça, ouais, c'est une illustration des nouvelles formes du pouvoir, mais alors en bas de la hiérarchie policière, c'est des gens de la compagnie de sécurité d'intervention qui a été créée à peu près un peu avant la loi de travail, mais qui pendant la loi de travail n'intervenait pas de façon autonome. Ici on les a captés, d'ailleurs j'étais avec eux, on les a captés à Avenue Marceau, ils étaient en fait une trentaine. Hein. Bon, je ne vais pas développer au fond à quoi ça sert. La première chose dans la comparaison, au fond, c'est cette histoire d'Internet qu'on lit beaucoup et Facebook à l'horizontalité. Il y a une différence importante entre le mouvement tunisien et le mouvement des Gilets jaunes. C'est que le mouvement qui naît à Sidi Bouzid le 17 décembre, il surgit de façon spontanée. Hein, il n'y a pas de préparation. Or, à l'inverse, donc je vous ai donné le détail hein, je veux pas, de Sidi Bouzid, à l'inverse, le mouvement des Gilets jaunes, lui, est constitué par une phase préparatoire qui est longue et qui se passe sur Internet. Hein. Donc il y a une inversion au fond du schéma. C'est-à-dire quand tu dis, premièrement, il y a l'immolation, il y a le rassemblement, puis il y a la vidéo qui est à 19h sur Facebook, puis aller sur Al Jazeera à 21h. Ici, en fait, il y a tout un travail de préparation qui commence avec la pétition de Priscilla, qui va continuer avec, commence à apparaître l'idée en octobre qu'on pourrait faire une opération escargot à Paris. Et puis il y a surtout cette vidéo de Jacqueline Brault qui va faire énormément de vues, qui va faire finalement 5 millions de vues en peu de temps. On voit bien que ça décolle à ce moment-là. Vous voyez la pétition qui est à 12 000 signatures le 21 octobre passe quand même à 300 000 signatures le 24 octobre. Tout d'un coup, ça devient viral sur Internet. Et du coup, évidemment, la vidéo de Jacqueline Moreau va finalement faire plusieurs millions de vues et ça va attirer l'attention de l'Élysée, du pouvoir. Hein. Donc on va envoyer, excusez pour tu peux le temps de relire, je vais savoir de finir, il y a plusieurs coquilles, hein, vous m'excuserez pour ça. Macron envoie la secrétaire d'État à l'écologie sur le web, il le décide le 4 novembre. Voilà.
Il envoie la secrétaire d'État à l'écologie sur le web.
Oui, sur le web. Elle va parler, elle va faire des vidéos et tout ça, pour répondre à Jacqueline Moreau.
J'avais pas vu ça.
Ah oui, c'est facilement accessible tu tapes son nom.
Vargon, hein, Vargon. Vargon, elle s'appelle.
Voilà, c'est ça. J'étais pas sûr d'avoir la bonne orthographe, et donc, comme je n'avais pas le temps de le chercher, je n'ai pas mis.
C'est Vargon.
Et voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, alors, évidemment, on est quand même dans cette affaire de l'interaction entre le pouvoir et Gilets jaunes. On peut quand même, même si on n'a pas travaillé sur le pouvoir, au moins esquisser un séquençage. On voit bien qu'on a donc une phase internet de préparation qui se clôt quand même le 16 novembre. Du 17 novembre au 16 décembre, on a des ronds-points, des manifs, du Facebook, et on a une tentative importante d'élargissement en direction des lycées qui va échouer. À partir du 18 décembre, commencent les évacuations des ronds-points, hein, du dimanche 18 décembre. Grosso modo, c'est jusqu'à début février, ils évacuent les ronds-points à Commercy. Il ne reste plus beaucoup de ronds-points en France en février. Hein. Quasiment, il reste maintenant essentiellement des manifestations et Facebook. Alors, il y a en ce moment, à différents moments, il y a des tentatives de reprise des ronds-points, justement, qu'évoquait Benoît. Vous voyez, dès le 24 novembre, on est aux augmentations, etc. Alors, premièrement, le mouvement prend très rapidement. En France, comme tout le monde est surpris, le premier dimanche, il y a 300 000 personnes, etc. La Tunisie, c'est pareil. Alors, de ce point de vue-là, il y a toujours la théorie des accumulations, des analyses structuralistes qui vous disent tout ça. Bon, voilà. Alors, il y a des formules des acteurs qui résument ça. En Tunisie, on reprend plus ou moins la formule de Mao Tse-tung sur la planète sèche. Il suffit d'une étincelle qui va mettre le feu. Hein. Bon, même si c'est pas un ancien maoïste qui dit ça, c'est un nationaliste arabe, mais ils ont eu des liens étroits. Voilà, la formule, vous l'avez bien. Hein. Il s'est embrasé, il a mis le feu au pays. Voilà, on va mettre voici ici. Alors ici, regardez, David, c'est un type qui est dans le BTP, ils sont quatre dans la boîte, il vient de Sens, il est dans Lyon. Il fait toute une série de remarques sur l'oppose il y a 40 ans et aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes cet automne qui avaient comme ça une vision un peu d'âge d'or. Une vision, en tout cas, qu'ils ne font que descendre. Et grosso modo, quand ils donnent une date, c'est 40 ans. Voilà. Hein, depuis 40 ans, ça va de mal en pis. Voilà. Hein. Alors, ben voilà, il y a 40 ans, le patron, il distribuait quand il gagnait. Maintenant, quand il gagne, il donne plus rien. Et alors, évidemment, les taxes ont mis le feu aux poudres. Anne, elle vient du Maine-et-Loire, d'une petite ville qui s'appelle Beaufort, sur la rivière, à côté d'Angers, qui est à côté d'une bretelle d'autoroute qui vont bloquer. Elle a fait des levées de péage, essentiellement. C'est ça qu'ils ont fait. Que les gens passent gratuitement, parce que symboliquement c'est important, puisqu'on est dans un mouvement sur le pouvoir d'achat et contre le pouvoir et les taxes. Hein. Voilà. Elle dit, on fait ce qu'on peut pour survivre. Jusqu'à présent, les gens se sont tus, mais le feu a été mis aux poudres. Vous voyez, cette expression du feu aux poudres, c'est une expression ici qu'on retrouve à beaucoup d'endroits. Hein. Voilà. Il y avait finalement tout ça qui était prêt à partir et ça part. Voilà. Les gens sont mis à parler, dit-elle. Elle est au SMIG. On y reviendra. Son mari aussi. Voilà. Fabien, c'est un ancien militaire. Il est jeune, il a 28 ans. Il est ouvrier intérimaire. Pour lui, le social est mort. C'est fini. Voilà. Toute cette période est finie. Vous voyez, il y a toujours cette idée. On descend. On descend. Voilà. On descend. Hein. Philippe, retraité, monteur télévision, retraité. J'y arrive plus. Enfin, je vous épargne ce genre de choses.
Hein. Pourquoi les... Oui. Les 40 ans.
Écoute, je me suis posé cette question parce que plusieurs personnes m'ont dit 40 ans.
On dit toujours aussi 30 ans, 40 ans.
Voilà, tu remontes à 40 ans, tu trouves.
Ça revient beaucoup.
Hein ?
Ça revient beaucoup.
Ça revient beaucoup. Alors moi, je pense, évidemment, c'est la rupture de l'union de la gauche, la première rupture de l'union de la gauche. Mais c'est très politique, donc ça, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je crois, finalement, comme interprétation. Il ne faut pas oublier qu'en 68, il y a une augmentation du SMIC extrêmement importante, de 30%. Voilà. Et donc les gens qui ont vécu ça ont eu pendant un moment l'impression que finalement les choses allaient mieux pour eux. Parce que 30% de plus du SMIC, c'est énorme pour les gens. Voyez. Et après, eh ben, ça commence à dégringoler. C'est la crise du pétrole, machin, le chômage, l'austérité déjà, Raymond Barre, et puis ça continue. On est 40 ans, ça t'amène en 78. Hein. Tu es au cœur du quinquennat.
Hein. C'est la crise de la sidérurgie.
Et c'est la crise de la sidérurgie.
Il y a deux choses, en fait. Parce qu'il y a une historienne qui a travaillé sur ces 30-40 ans. Et c'est pas du tout isolé, c'est-à-dire qu'il y a, c'est un espèce de repère historique, en fait, oui, qui est lié à la vie propre de chacun. Parce que 30-40 ans, c'est un moment où tu commences à sentir que tu as vécu quelque chose d'historique. Quoi.
Mais ça s'est transmis, tu vois, parce que par exemple, David, il a environ la quarantaine. Donc pour lui, 40 ans, quand il dit 40 ans, on lui a transmis.
C'est l'autre aspect, c'est qu'il y a certainement une réflexion de l'histoire autour de 80, quoi. La société industrielle, l'accélération du chômage, un sentiment qu'il y a eu, enfin, je sais pas, et qui n'est pas seulement un sentiment.
Et la spécialisation, on parlait tout à l'heure au début, c'est en 80,
ça commence. Donc il y a aussi une réflexion. Donc ça rajoute.
Alors est-ce que c'est 80 ou 74?
Comment?
Ça peut être 74.
Oui, c'est 73, c'est la crise du pétrole.
Oui, la crise du pétrole, 73.
Mais tiens, bon, peut-être on y reviendra après, mais pardon, excuse-moi.
Moi je pense que 73, ça a été un virage. Parce qu'avec la crise du pétrole, bon, ok, le pétrole avait augmenté, mais à partir de là, on a culpabilisé les gens qui ne demandaient pas que du pouvoir d'achat, ils demandaient aussi du mieux vivre, du temps pour vivre. Et en fin de compte, hein, je résume, c'est les puissances financières qui se sont dit voilà, stop, donc on va profiter de cette crise pour mettre un coup de frein. Et ce coup de frein, bah, en 80, il commence à apparaître. Et moi, je me souviens, en 74, Raymond Barre, qui parlait de la rigueur, il disait « Attendez un petit peu, on verra le bout du tunnel. » Non, mais voilà, je pense que ça peut aussi s'expliquer comme ça. Parce que le temps qui est... parce que moi, je sais que... Je lui dis « Oula, ça commence à être dur. » Je faisais de l'intérim par choix. Je lui dis « Je vais faire embaucher. » C'était en 74, hein. Et je pense que les répercussions, bah oui, il faut du temps avant que les gens s'en aperçoivent.
Oui, en même temps, bon, par exemple, les économistes ont bien montré que c'est vraiment en 80-83 que ça commence, l'inversion totale de type de dépenses. Mmh. Et alors, il y a l'augmentation des taxes et la réglementation financière qui permet donc de donner des dividendes de plus en plus importants aux gens. Donc, c'est vraiment, il y a deux courbes qui sont totalement différentes des années 50 jusqu'en 83, disons que les couches moyennes basses ont des taux d'augmentation moyenne de 30-40%. Après 83, elles ont des taux de 10-15%, tandis que les couches hautes augmentent de 140%. Donc c'est vraiment des choses comme ça, c'est-à-dire. Ça c'est mesuré, donc c'est réel, c'est-à-dire.
Je rajoute un tout petit complément. C'est pareil, dans les milieux des années 70, on commençait à installer le chômage, et le chômage, on, je ne dis pas qu'on le favorisait, mais on l'instituait gentiment, et un chômeur ne touchait plus qu'un gars qui bossait, parce que ses indemnités étaient à peine moins, mais comme il ne payait pas de cotises, du coup il gagnait plus. Moi j'ai eu pas quelqu'un qui a discuté, même chose à dire. Et donc là encore, ça c'était une préparation, il y a des tas de choses qui se préparent, hein. Ils mettent des années à le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire.
Ce serait intéressant de creuser quand même.
Pour poser la question.
Ouais, poser la question, parce que moi l'idée que j'ai dans la tête, c'est est-ce que 40 ans, c'est le moment où les gens commencent à situer le point de départ d'un discours sur l'austérité qu'ils vont commencer à intérioriser. Et ça, c'est un processus long, en fait.
Qu'on commence à accepter, en fait. C'est des années.
Ça, mais c'est si les années 78, c'est Saint-Étienne. Si c'est la crise du pétrole, c'est autre chose, tu vois. C'est pour ça qu'une année près, un truc comme ça, c'est pas une année.
Non, c'est... Ouais.
Mais si tu veux, parce que 73, c'est pas l'intériorisation, c'est le choc, et c'est le moment qui préfigure, quoi. Voilà. Après, il y a tout le discours idéologique, sur, et notamment l'union de la gauche. l'approche que tu évoquais, le moment des grands renoncements, quoi, comme dirait le
aussi, en filigrane. Mais je pense que fondamentalement, c'est social. C'est-à-dire, mon sentiment, c'est que les gens ont le sentiment que depuis 40 ans, ça va de mal en pis pour eux. Voilà. Et je pense que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que les gens qui sont là, comme ils ont cette tendance à penser que les choses vont de mal en pis, ils ont pensé là, ils commençaient à avoir la tête sous l'eau, hein, les gens qui sont au SMIG, et ils pensent que s'ils n'arrêtent pas maintenant, vraiment, ça va aller très mal pour eux. Voilà. Parce qu'ils sont dans le sentiment que les choses vont toujours plus mal. Et je pense que c'est une des explications de la force du ressort du mouvement en ce moment. En tout cas, il faudrait le creuser. C'est une hypothèse que je vous livre. Je pense que dans les entretiens, il faudra le creuser.
Est-ce que je peux intervenir ?
Bien sûr.
Je me faisais la question sur les 40 ans en disant que les gens n'ont pas forcément tous une vision précise de quelles sont les causes qui amènent au déclassement. Mais par contre, je pense que souvent, les discours répondent des contre-discours. Moi, j'ai l'impression que si les 40 ans, ça fait écho à cette image des trois glorieuses que nous avons vendue comme un paradis finalement perdu, et que les gens ont beaucoup intégré en se disant que ce ne sera plus jamais comme avant, mais sans forcément à mettre le point sur une raison particulière.
Oui, je pense que c'est ça. De la gauche, et des 30 glorieuses qui sont boostées, je pense, par les augmentations du SMIC de 68 dans le souvenir des gens. Voilà. Stop aux taxes. Tenez, c'est comme la doléance d'un veuf retraité. Vous voyez quand même la question. Regardez un peu tout ce qu'il trouve le moyen de dire. Rétablissement de la demi-part. Diminution, voire surpression de la cotisation pour le retraité. Il revient sur la pension de réversion pour les veuves. Diviser par deux la taxe d'habitation et la taxe foncière pour les veuves et les veufs, car il n'y a plus qu'une seule personne qui occupe la résidence. Verser une allocation chauffage pour l'achat de combustible. Je veux dire, ça permet un peu de bien comprendre un peu les retraités, combien ils sentent qu'ils sont dans le mouvement, combien... Alors je pense qu'il y a la question des classes, évidemment, de l'analyse de classe va revenir ici, je pense, avec ce mouvement, hein, il me semble. En tout cas, moi, ce qui me semble, ce qu'on retient des entretiens, ce que je retiens, moi, des premiers entretiens que j'ai faits, c'est qu'en tout cas, il y a une question de classe de revenus, en tout cas. Hein, c'est-à-dire que même si les gens sont deux, on ne va pas revenir dans la discussion entre les petits patrons, les petits machins, etc., les auto-entrepreneurs, enfin, le caractère hétérogène, d'une certaine façon, d'un point de vue classe sociale du mouvement. Mais par contre, les gens ont une conscience très nette de qui ils sont, hein, voilà. Grosso modo, il y a deux catégories. Il y a les gens qui ne s'en tirent pas, hein, qui ont déjà la tête sous l'eau. Alors c'est évidemment les gens qui sont en travail précaire, qui font des horaires partiels, etc. C'est aussi les gens qui sont au SMIC. Anne, elle va nous dire, on est tous les deux au SMIC, mon mari et moi, on a trois enfants, on n'y arrive pas. Voilà, hein, voilà. Et puis il y a les gens au-dessus, hein, les gens au-dessus. Alors voilà, il y a David, par exemple, qui est dans le BTP, il dit, moi ça va, il nous a dit, il gagne 2500 euros. Alors voilà, il y a un point ici, je vais faire une insiste parce que j'ai oublié d'en parler, qui me paraît aussi importante. J'ai été extrêmement frappé de la facilité avec laquelle les gens disent combien ils gagnent. On est en France. Enfin, jusqu'à présent, on sait que c'est extrêmement difficile. Ça m'a frappé parce que j'étais dans une manif et j'étais avec des jeunes et on venait à peine de parler et je commence. Il y avait une histoire, ils ne voulaient pas laisser passer le camion des pompiers. Je leur dis, enfin, quand même, bon, enfin. Vous voyez, on a échangé trois mots. Alors, ils m'ont dit, non, on ne veut pas parce que c'est un cadeau à l'État. Bon, je dis quelque chose. Et tout de suite, l'argument, c'est, moi, voilà, je gagne 1300 euros. Je suis à la mairie de Tourcoing, je gagne 1300 euros. Comme ça, il me dit ça, comme ça. Et il me dit, voilà, j'y arrive pas. Il faut que mes parents, j'ai 600 euros de loyer, il faut que j'aille voir mes parents tous les jours, tous les mois, à la fin du mois. Voilà, voilà, j'y arrive pas. Voilà. Et il avait entre 25 et 30 ans. Il avait un copain à côté de lui, tout de suite, qui me dit, moi, je gagne, il gagne à peu près pareil, 100 euros de moins, 1200 euros. Ça m'a frappé, c'est-à-dire, on avait à peine parlé, et je vous disais, voilà, ma fiche de paye, c'est ça. Et Et ça n'a fait que se confirmer, hein. C'est-à-dire que tout le monde vous dit combien il gagne. Voilà.
Il demande aux politiques aussi combien ils gagnent.
Aussi, aussi.
Ils demandent la réciprocité, on va dire. Hein,
voilà. Mais ils disent eux-mêmes combien ils gagnent, hein, très facilement. Hein, voilà. Et alors, du coup, comme ils ont un discours très clair sur l'argent, il y a finalement ceux qui vous disent, comme David, moi je suis à 2500 euros, moi ça va, mais ma soeur ça va pas, ma mère ça va pas, je connais plein de gens autour de moi que je connais bien, le 15 ils ont plus à manger. Voilà. Et j'étais avec Yves d'ailleurs une fois aussi, on était à cette manif, je ne sais plus, on croise quatre filles qui venaient de Dordogne, et elle nous dit, moi ça va, je suis là pour ma grand-mère. Et elle nous avait donné le chiffre sur lequel vivait sa grand-mère. Hein. Il y a Johan, par exemple, qui est ouvrier boulanger, il dit, moi je ne suis pas concerné, mais tous les gens autour de moi qui gagnent le SMIC. Et alors c'est intéressant, il dit, je suis comme eux. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'hypothèse d'un milieu social, à mon avis, qui est dans leur tête. Hein. Voilà. J'ai trouvé d'ailleurs que le texte de Benoît Coquart, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est un texte qui a été écrit, qu'il a écrit sur le 17, mais qu'il a écrit en fait avant. C'est un sociologue rural. J'ai trouvé, c'est le meilleur texte, moi, que j'ai vu jusqu'à présent de chercheur. Voilà, et justement, il analyse très finement cette question du milieu, hein, du milieu rural, y compris les petits patrons au milieu de tout ça, etc. Enfin voilà, en tout cas, je pense qu'il y a l'hypothèse d'un milieu social, hein, qui est celle que prend Benoît Coquart, et à la base, je pense, en tout cas, la question de classe, elle se passe en termes de classe de revenus, voilà, pour les gens, hein, dans leur vécu, hein. Pas dans l'analyse marxiste. D'ailleurs, vous voyez, voilà, il y a un gilet jaune, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est pris à Paris le 5 juin. Vous parlez millions et milliards, et nous, on parle 10, 100 euros, rarement 1000 euros.
C'est typique.
Oui, hein, on voit bien là. Hein, hein. Remarquez en dessous, est-il normal ? Est-ce normal ? Vous avez vu normal ? On va y revenir à normal. Je ne l'avais pas encore vu dans ce gilet jaune. Alors, dans l'issue du mouvement aussi est en partie une question de classe. Parce qu'en Tunisie, c'est finalement l'élargissement social dans les derniers jours aux villes de la côte, à Sfax et à Tunis, qui va amener la chute de Ben Ali et qui va en même temps transformer les mots d'ordre. Les mots d'ordre qui étaient sociaux au début, qui étaient bande de voleurs, le travail est un droit, devient dégage. Donc on passe directement à la politique et on ne reviendra plus à la question sociale d'ailleurs. Hein. Bon. Je suis assez près de Daubry sur ce genre d'analyse. Alors, le surgissement des Gilets jaunes, ben son problème aussi, c'est qu'il n'arrive pas à s'élargir socialement au bout d'un moment. Voilà, voilà. Et je pense que le moment clé, probablement, l'hypothèse qu'il faut faire, je pense, c'est effectivement l'échec du mouvement lycéen. Voilà. Qui est d'ailleurs un mouvement, je ne sais pas si vous l'avez noté, qui est un mouvement qui est différent des mouvements lycéens précédents, car il est beaucoup plus connoté socialement en bas de l'échelle. Lycée professionnel, lycée périphérique, alors que d'habitude...
Juste une remarque là-dessus, je ne sais pas pourquoi tu parles d'échec, au sens où à chaque fois qu'il y a eu une grande mobilisation nationale adulte, oui, depuis 10 ans, il y a eu une semaine de mobilisation lycéenne, systématiquement, oui, toujours très violente. Alors, effectivement, pas toujours au même endroit. Donc, il reste à en faire la géographie. Mais c'est un phénomène récurrent.
Voilà. C'est un phénomène récurrent. Mais moi, je te dis échec, voilà. C'est parce que...
En 2010, au moment du CPE, il y a eu une semaine de mobilisation, oui, lycéenne. En 2006, en 2010, pour les retraites, il y a eu une semaine de mobilisation lycéenne, etc. Enfin,
oui, mais là, je pense que...
Là, il y a une semaine. Ça n'a pas étonné que ça s'arrête au bout d'une semaine.
Je pense, moi, que la mobilisation a été cassée par la répression. C'est pour ça que je vous ai donné les chiffres. Hein. Regardez les chiffres.
Ça, pour le coup, la répression était beaucoup plus violente.
Ah oui, par rapport aux autres mouvements. Sans commune mesure, parce que regarde, en 15 jours, ils ont 3600 interpellations et 3200 gardes à vue. C'est proportionnellement plus que les gilets jaunes pendant un mois.
Parce qu'il s'est passé à Mantes, en fait, c'est une vraie réalité. Hein? Sur les lycées, il y a une volonté étatique de...
Ils ont compris, ils ont pensé que si les lycées partaient, à mon avis, ils n'y arriveraient pas, et ils ont décidé de casser ça direct. Voilà. Et sans état d'âme, hein, parce que les chiffres... Vous voyez quand même, 4000 gardes à vue de gilets jaunes pendant un mois et 3200 pendant 15 jours pour les lycéens.
Et ça, hein, ça vient d'où ces chiffres-là? Parce qu'ils sont, ils sont extrêmement parlants sur les lycéens.
Oui.
Et ils sont quelques...
ils sont sûrs.
Ils sont sûrs, mais ils sont connus ou pas?
Ils seront bientôt connus, je pense.
Parce que c'est... ça interpelle beaucoup. Et on a vu de lycéens, c'est normalement...
Des chiffres sûrs, c'est des chiffres qui peuvent venir. Que de... Écoutez, bon, je ne vais pas aller dans les
sources. Il y a une question pour obtenir un certain nombre de chiffres. Donc, je pense que
non, mais ce n'est pas la question. C'est que c'est garde à vue de lycéens, c'est quand même... c'est de la répression haut de gamme, quoi. Enfin, c'est rare
c'est ce que je disais à Bertrand.
Je suis d'accord.
C'est très vieux.
C'est pour ça que je vous ai donné les chiffres. Je sais qu'ils sortent un peu tôt, mais ils vont finir par sortir. Voilà. Hein, j'ai enlevé les deux derniers chiffres pour qu'on n'identifie pas tout ça. Hein, c'est le 5 janvier, vous voyez. On est à la manif au musée d'Orsay. Commentaire, je pense qu'il est un peu comme moi, il commence à penser que bon. Alors, il y a un point là maintenant que je veux quand même se soulever, qui est la question de légitimité de réappropriation des symboles nationaux. Parce que ça fonctionne de la même façon en Tunisie et avec les Gilets jaunes. Voilà. Hein, et ça tourne autour de l'hymne national d'abord et du drapeau. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous retrouver l'image de Regeb. Mais 5 jours après l'immolation de Mohamed Bouazizi, il y a une manifestation à 30 km de Sidi Bouzid, à Arghev, et le défilé se fait avec le drapeau national tunisien et le drapeau du GTT. Voilà. Hein, voilà. Et ça va monter, hein, la réappropriation. C'est-à-dire que la délégitimation du pouvoir se passe par la réappropriation du chant national, de l'hymne national, hein, Et du drapeau. Et en Tunisie, en particulier, dans l'hymne national, l'hymne national a été en fait écrit par un Égyptien. Il n'y a que 4 lignes qui sont d'un Tunisien, qui sont d'un poète tunisien qui est Mohamed Chebbi. Et c'est les 4 lignes de Chebbi qui vont être reprises par les manifestants. C'est-à-dire, vous voyez, on tunisianise, on prend la partie la plus tunisienne de l'hymne national. Hein, voilà. Ben en France, c'est pareil. Hein, j'ai pas mis de photos, mais les photos avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, il y en a plein, hein, dans les manifs de gilets jaunes. Les gens qui chantent la Marseillaise, ça arrive régulièrement, c'est récurrent, enfin, etc. Hein, voilà, c'est pareil. Alors, je pense par contre que la différence entre ici et la Tunisie, là, il y a une différence, c'est qu'au fond, en Tunisie, une fois qu'on sera approprié les symboles nationaux, le registre historico-politique, il va pas très loin, parce qu'au fond, il renvoie à la lutte pour l'indépendance, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont penser le soulèvement tunisien comme une deuxième indépendance. Ça se dit, hein, je l'ai entendu à Menzel Bouzaïen, mais parce qu'il y a eu des... C'est un des rares endroits où il y a des félagas, où il y a eu une lutte armée contre l'occupant français... je l'ai entendu dans des milieux étroits à Tunis, mais je l'ai entendu. Hein. Bon, voilà, passons vite. Par contre, en France, le registre, du drapeau et tout ça, il renvoie à 89, et c'est un registre qui est puissant. Et on va bien le voir donc, dans la figure du roi. Hein. On l'a déjà vu dans plein d'articles de presse, mais les gens que j'ai interviewés, voilà, ils disent la même chose. Voilà, David, il est en train de parler de Marrakech. Hein. Alors il reproche qu'il aille à Marrakech. Il dit il va à Marrakech avant de parler. C'est parce qu'il veut être sûr de pouvoir signer tranquille, hein, et parce qu'il veut pas nous consulter. Dans tous les autres pays, il pense qu'on a consulté les gens, ce qui est pas vrai, mais enfin il pense ça. Voilà. Et alors. Et donc il continue, je vous le cite, le verbatim est intéressant. Il fait ce qu'il veut, hein, il fait ce qu'il veut. On croirait en roi, c'est un roi, c'est un banquier, il est pour les riches. Malheureusement, ça va finir comme Louis XVI, ça va finir par tomber sur sa gueule. Et il dit ça, et c'est intéressant aussi, parce qu'il revient dans le temps, c'est-à-dire pour lui Macron, et il est dans une suite de gens. Voilà. Il n'a pas de chance lui, ça lui tombe dessus. Mais ça aurait pu être Hollande, Sarkozy ou après Macron, hein, voilà. Quelque part, il le plaint un peu, hein, voilà. Parce que quand même, il finir comme Louis XVI, c'est la guillotine, hein, voilà. Fabien, qui est l'ouvrier là, intérimaire ex-militaire, mal à parole, hein. La liberté d'expression est morte. On est en pleine dictature. On est en pleine monarchie. Donc on peut le guillotiner. Vous remarquez comment il passe de la dictature à la monarchie. Là. Et j'ai trouvé intéressant, puisque c'est la monarchie, on peut lui couper la... On voit combien le registre 89 est en France très enraciné, en fait. C'est ça qu'on découvre quand on écoute les phrases des gens, hein, je trouve. Personnellement, je le découvre, hein, je ne l'imaginais pas comme ça. Fabien est très à droite, hein. Lui, il verrait bien l'armée prendre le pouvoir, hein. Temporairement, pour un an. Ancien militaire. Alors, vous voyez, justement, le groupe de Fabien, là, ils sont réfugiés, ils ont été chassés de leur emploi. Évidemment, vous voyez bien, il y a un pantin, et le pantin, vous avez compris que c'est le président. Hein, voilà. Là, c'est un gilet jaune à Paris, on est le 5 janvier. Manu, tu descends. Gaulois, feignants, illettrés, ces illettrés que tu méprises sont là pour toi. Hein. Fier d'être la France d'en bas, fier d'être gauloise, c'est une femme. Hein. Elle est déguisée en gauloise, hein. elle a les trucs, etc. Hein. La question de... J'ai mis ça parce que la question de la distance linguistique, elle est importante. Dans la conscience de classe, la distance sur les mots, elle est importante. Hein. Je peux vous dire des choses si j'ai le temps. Je vous le dirai tout à l'heure, j'ai des notes, hein. Je ne sais plus où elles sont. Alors, dans le parallèle entre la Tunisie et Gégé aussi, il y a la question, il y a les mots de dignité et d'honneur. Hein. Voilà, c'est à mon avis qui sont des ressorts très forts. Alors, la dignité ici, ça fonctionne. Alors, évidemment, je passe rapidement de la Tunisie, mais je vous ai donné la dignité. Il faut un emploi, parce que sinon, on n'est rien du tout. Hein. Et puis, il y a tous ces mots d'ordre en Tunisie autour de « honte à vous ». Hein. Il va y avoir une série de mots d'ordre comme ça, spontanés, à Regab, mais on a aussi un mot d'ordre comme ça à Tunis. Hein. Honte à vous, il s'est brûlé, honte à vous, etc. Ce qui n'est pas toujours dans la même formulation, mais le mot honte est toujours là. Puis on désigne des gens. Hein, voilà. Bon. Ici, on va avoir l'opposition entre normal et pas normal. Ça m'a frappé, en travaillant les interviews, Anne, elle dit, hein, elle est dans la grande distribution, elle doit être caissière, hein, grande distribution. En travaillant, elle a 35 ans, hein, en travaillant, on devrait pouvoir vivre dignement, et ça n'est pas le cas. Voilà. Et en fait, elle va dire ailleurs, c'est pas normal. Hein. David, quand il parle de ces gens qui n'ont plus à manger le 15 et qui connaît, qui sont dans sa famille, il dit, est-ce normal que des gens qui travaillent n'arrivent pas à se nourrir? Voilà. Et puis, à un autre moment, sur la CSG, il va dire, la CSG sur la retraite, c'est une honte. T'as bossé toute ta vie et après. Voilà. Cette opposition normale, pas normale, elle est extrêmement forte. Voilà. Alors, Fabien, par exemple, hein, vous allez voir jusqu'où il la pousse, hein, sur Macron. L'argent qu'il prend, il va le récupérer quelque part. Normal. Beaucoup de gens ont capté qu'il y a une conscience de comment fonctionne le système économique aujourd'hui et combien on les dupe, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose et on va vous le prendre de l'autre côté. Je vous passe tous les exemples. Hein. Voilà. Par exemple, on baisse le code de la route, il va vous dire, et on monte les péages. Voilà. Voilà. Ils voient ça parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que quoi qu'on leur dise qu'ils montent, finalement, dans leur portefeuille, ils ont moins qu'avant. Donc ils se rendent bien compte que quand on leur donne quelque chose, en fait, on leur a rien donné. Hein. Donc c'est très incorporé, cette idée qu'on nous donne et c'est rien. Ce qui explique aussi en partie pourquoi les 10 milliards pèsent si peu. Parce qu'après 10 milliards, c'est quand même de l'argent. Hein. Voilà. Alors, Fabien, l'argent qu'il prend, il va le récupérer quelque part. Voilà. Hein, voilà. L'argent qu'il perd, pardon, avec les 10 milliards. Mais il va le récupérer quelque part. Normal. Non, ce n'est pas normal. Mais pour lui, c'est normal. Il croit qu'on est assez cons. Il nous prend de haut. Ils l'ont dit carrément. Ils ont été trop intelligents. Vous vous rappelez cette phrase de ce député, on a été trop intelligents. Ce qu'on dit est trop intelligent. Il y a d'autres exemples, hein, sur la question de la distance linguistique. La distance linguistique est un marqueur social. Hein. La façon dont il a parlé le 31 décembre, ça a été très... là aussi, ils l'ont bien noté. Ah, hier, j'ai fait l'entretien le 1er janvier. Alors hier, il a sorti un mot, le mot. Les gilets jaunes sont des foules haineuses. On ne savait pas ce que ça voulait dire. On est allé sur Internet. Il nous a sorti des mots. Alors là, il fallait être carrément intelligent. Hein. Alors, Philippe, qui est le monteur télévision, hein, c'est un entretien de groupe. Il lui dit, ouais, on est un sous-peuple. Alors Fabien, qui est l'ancien militaire, là, qui a 28 ans, il reprend. On est descendants, comme disait Hollande. Vous voyez simplement les mots, qu'est-ce qui arrive derrière la distance linguistique, hein. Bah oui, la différence avec la Tunisie, puis on va s'arrêter là, c'est l'Assemblée Générale, c'est Commercy. Là, il y a John et Steve. Alors, évidemment, il faut faire attention. Commercy, probablement le seul endroit en France qui a fonctionné en Assemblée Générale. Voilà. Alors, ça a fonctionné.
Hein ?
Oui. Oui, c'est sûr.
Moi, j'en reviens.
D'accord, alors d'accord.
C'est sûr, tous les jours, quotidiennement.
Tous les jours aussi. Voilà, c'est ça, c'est la question que j'allais poser, c'est est-ce que c'est tous les jours ? D'accord. Voilà. Alors, à Commercy, ça s'est passé assez simple. C'est que, justement, l'Assemblée, on se réunissait tous les jours, mais ça ne discutait pas. Il y avait un micro, et justement, il y en avait un qui tenait le micro, et puis il disait, bon, alors on vote, et puis voilà, Barca, voilà, hein, voilà. Et puis, au bout d'une semaine, Steve raconte ça, j'ai les verbatim quelque part, hein, il raconte ça, et puis alors, le micro tombe en panne. Voilà, alors le micro tombe en panne, alors on s'assoit, on s'assoit, ils se sont mis à se parler. Avec les voisins, voilà. Et c'est comme ça qu'est née véritablement une assemblée générale où on discute, et pas une assemblée, bonjour, et pas une assemblée générale où on vote, etc. C'est né comme ça, c'est né à cause de la truc. Alors, ça, évidemment, il n'y a pas eu d'assemblée générale en Tunisie. Là, c'est une forme complètement neuve, et a fortiori, alors la tentative qui a été faite à Commercy en février de faire une assemblée des assemblées, la prochaine édition est d'ailleurs à Saint-Nazaire, hein, début avril.
Voilà. Et ma participation, alors j'ai aux divers mouvements et aux Gilets jaunes, elle est aussi un peu habitée par le fait que je sois historien, mais je peux dire que je pars d'une expérience d'enquête au Brésil, surtout au Brésil et en Ukraine, mais en fait une enquête juste après les grands mouvements, le grand moment des grands mouvements. J'ai participé à des tas de choses là, en Russie aussi, évidemment en France, et là, pour les Gilets jaunes, c'est à la fois des ronds-points, des manifs, passion au réseau. Et alors tu disais mouvement de la place publique, en fait on a fait avec une sociologue de l'école aussi un colloque en novembre 2015 sur le mouvement de la place publique, qui commence à être publié dans Politica, hein, qui est sur le site par des collègues d'études aussi. Et ce qu'il y avait, c'est qu'on a réuni des tas de gens de mouvement des places, hein, ce qui maintenant, il y a beaucoup de livres, d'articles sur le mouvement des places, mais on a commencé à appeler ça effectivement le mouvement des places, le mouvement des places publiques. Maïdan, le mot de Maïdan qui est utilisé à Kiev, ça veut dire en arabe la place publique, justement. Quoi. Et on a. Donc on avait réuni à la fois effectivement des sociologues, des historiens, mais aussi des activistes réflexifs, des gens qui avaient été très actifs sur les places, qui avaient existé, et ça pouvait être des artistes ou des participants. Donc c'était aussi cette idée de discuter à égalité entre sciences sociales et participants des mouvements. On y reviendra peut-être sur le rôle des sciences sociales, mais c'est cette idée que les sciences sociales n'avaient pas à apporter quelque chose à l'extérieur, que
elles avaient à apprendre le mouvement et à apprendre dans le dialogue à égalité avec, avec les gens actifs dans le mouvement. Ce que je voudrais dire, c'est ce que j'essaie de voir pourquoi le mouvement des Gilets jaunes est d'une importance absolument exceptionnelle et même historique en France, et que cette importance, elle est liée aussi à un moment qui est un moment, disons, 2010, quoi. Je dis moment 2010 exactement comme on a parlé et on parle du moment 68, en évoquant les années 68, et pas simplement mai-juin 68 français, mais le 68 dans d'autres pays, et le 68 de, disons, de la fin des années 60 à 75. Et je pense qu'il y a un moment 2010, si on prend, qui a démarré avec la Tunisie, avec, qui a été immédiatement suivi, et pas par hasard, par le mouvement de la place Tahrir en Égypte, et puis par des tas d'autres mouvements des places. Le printemps arabe, qui a été immédiatement vitriné, a commencé, mais c'est la place Taksim à Istanbul. C'est Maïdan, c'est le mouvement de juin 2013 au Brésil qui a provoqué les manifestations les plus grandes que le Brésil avait jamais connues. Mais c'est aussi la Bulgarie, l'Espagne, ou le Burkina Faso, par exemple. À ce moment-là aussi, il y a un mouvement assez extraordinaire du même genre, du même acabit au Burkina Faso et dans d'autres points du monde. Oui, alors voilà, oui, mais aussi, les parapluies à Hong Kong. Bon. Alors, ça pose une question, et la place de la place est une des questions principales, parce que ça s'est révélé le lieu dont on peut dire que c'est un lieu de l'expérimentation de nouvelles formes de démocratie. Et donc, on a, bien sûr, les ronds-points ne sont pas des places, ce ne sont pas des places urbaines. Mais en fait, les ronds-points tiennent d'une certaine façon lieu de ces places qu'on a vues dans les mouvements des places, avec leur spatialité propre, c'est-à-dire en fait leur dispersion, par exemple, on y reviendra, on en discutera, mais bon, en même temps leur lien, c'est à la fois dispersé, relié par le déplacement des personnes, relié par évidemment les réseaux rythmés par les actes hebdomadaires dans les grandes villes, etc. Et il y a beaucoup de caractéristiques qui rapprochent le mouvement des Gilets jaunes du mouvement des places. Et le premier, à mon sens, c'est l'horizontalité. Et l'horizontalité, je vais revenir tout à l'heure sur les raisons, mais c'est sous la forme de l'horizontalité qu'il y a cette expérimentation de nouvelles formes de légitimité démocratique. Et ça s'appuie, par exemple, sur la présence en personne. Les gens veulent être présents eux-mêmes et pas représentés, quoi. Et il y a un refus de la représentation qu'on retrouve dans tous ces mouvements. Nous ne sommes pas représentés, par exemple, on disait au Brésil ou en Turquie, ce qui voulait dire à la fois que les dirigeants ne nous représentent pas et qu'on ne veut pas être représentés. Quoi. Nous ne sommes pas représentés. Et autre aspect, alors je vais énumérer un certain nombre d'aspects qui rapprochent les Gilets jaunes de ces mouvements des classes. Il y a un autre aspect qui est l'obstination, justement, de la présence. On est là, on y reste, une obstination qui immédiatement fait face à la répression. Donc tous ces mouvements, il y a une répression instantanée. D'ailleurs, en gros, aussi, la répression alimente le mouvement. C'est très bien vu dans l'État, dans à peu près partout. Hein. Mais il y a une espèce d'obstination de rester sur la place qui peut aller très loin. Hein. Moi, j'avais été très frappé, et un des trucs qui m'avait attiré vers l'Ukraine, c'est de voir sur les images, en février donc 2014, les gens de la place Maïdan qui commençaient à être tirés par des snipers, qui reculaient devant le tir, mais qui revenaient. Ils revenaient. Et donc, quelle était la force qui fait qu'ils revenaient se faire, d'une certaine manière, exposer au tir? Et là, ça provoque toute une réflexion sur la dynamique de la place, sur ce qu'est la place. Et la place, c'est pas simplement non plus l'horizontalité, mais c'est une horizontalité qui se nourrit de toutes les pratiques qu'on retrouve d'ailleurs sur les ronds-points, c'est-à-dire faire la bouffe pour tout le monde, apporter des soins, protéger du froid, et aussi l'autodéfense. Hein, on a vu, alors là aussi, il y a quelque chose qui est caractéristique qu'on a vu très nettement dans les Gilets jaunes et dans la dynamique du mouvement, c'est le fait que il y a une certaine forme d'acceptation de la violence, une tolérance à la violence de la part des mouvements. Une tolérance à la violence, c'est une tolérance qui est aussi un peu conditionnelle, mais on le voit bien. Si on prend à Kiev, à Maïdan, dès le début, il y a des groupes d'autodéfense qui s'organisent. Et qui sont sur la place. Ils ont des tentes. Alors il y a aussi d'ailleurs, alors ils appellent ça Centurie du nom qui était utilisé par les Cosaques, hein, évidemment plus anciennement hein, les Romains. Mais, et il y avait la Centurie des femmes, il y avait la Centurie des Juifs, par exemple, en pleine Ukraine, ou la Centurie la Centurie non violente. Et qui a joué un rôle énorme dans la défense de la place. Hein, donc, à la fois une détestation de la violence, une acceptation de la violence. Et j'ai vu ça aussi au Brésil, les Black Blocs étaient dans les manifs, dans une convivence, presque une complicité entre les manifestants et les Black Blocs, et avec des échanges. Quoi. Et les Black Blocs à la fois attaquaient et donc pouvaient aussi provoquer des risques pour les manifestants, mais en même temps ils les défendaient. Et ça m'a fait penser que j'ai vu ça sur un des... parce que je suis sur le groupe Facebook Gilets 94, Gilets jaunes 94, et j'avais vu aussi une protestation en disant « Mais les Gilets jaunes, les Black Blocs, ils prennent des risques, ils attaquent, mais ils nous défendent pas. Il faudrait qu'ils nous défendent. » C'est-à-dire, il y a cette idée de, finalement, les Black Blocs, ils font partie du mouvement, ils font partie de la dynamique. Autre caractéristique qui me semble extrêmement importante et un peu commune, c'est l'idée de l'adresse directe. C'est-à-dire que pas simplement de leur horizontalité, refus du leader, mais le refus des représentants au sens où, après tout, on n'a pas à discuter de ce qu'on veut. On n'a pas à aller à une table, discuter de ce qu'on veut, à partager une table avec un ministre ou un truc comme ça, discuter de ce qu'on veut. Alors, bien entendu, on a vu quelles initiatives quand même se prenaient, mais il y a quand même cette idée que l'adresse qu'on fait au gouvernement doit être directe. Et justement, elle ne doit pas être représentée. Et l'adresse de quoi ? Et là, ce qui est quelque chose de très intéressant dans ces mouvements, qui sont, ben, chacun de ces mouvements est évidemment très singulier, quoi. C'est difficile de comparer, c'est difficile, mais on peut voir, par exemple, là, Jean-Marc l'a montré très très bien par rapport au mouvement tunisien, c'est la dynamique de la fabrique des revendications qui vont faire se réunir le plus de gens possible. Et il y a une dynamique qui est non seulement la dynamique du mouvement, mais qui se fait aussi sur place, quoi, sur les lieux, pas ailleurs que sur les lieux. Hein. Tu parlais du moment où on est passé à Dégage Benani. Par exemple, Dégage Yanukovych sur Maïdan, ça s'est fait aussi dans la dynamique de Maïdan, ou Dégage Moubarak à Taksim. Et c'est pareil, c'est-à-dire que en Turquie, à Istanbul, c'était défendons le parc Gezi. C'est le parc Gezi qui était menacé de devenir un centre culturel, c'est le dernier parc de la ville. Ou alors, ça peut être donc à la fois apparemment des petites revendications, des micro-revendications ou des grandes revendications. Dégage le président, c'est énorme. Et c'était ça qui réunissait la masse. Et par exemple, au Brésil, c'était un truc microscopique, c'était non aux 20 centimes d'augmentation du prix des transports. Et c'est ça qui a provoqué des manifestations absolument gigantesques. Et ceci parce que justement, elles sont le fruit d'une délibération qui se fait, disons, sur place. Quoi. Alors, il y a une chose très intéressante aussi et qui est partagée, c'est que. C'est le rapport à la révolution. Il n'y a pas dans ces mouvements l'idée de détruire, par exemple, la démocratie représentative, ou de détruire le pouvoir. Quand c'est dégage Ben Ali ou dégage Yanukovych, il ne s'agit pas de détruire l'ensemble du système. D'ailleurs, il s'agit simplement que ce type se barre.
Il s'agit de ne pas proposer quelqu'un à la place non plus.
Et de ne pas proposer quelqu'un, il n'y avait pas de proposition à la place non plus. Et alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est que la référence n'est sûrement pas, même si on parle de révolution, elle n'est sûrement pas 1917. Il n'y a pas de parti qui. Il n'y a pas de parti, il n'y a personne, on ne propose personne. Etc. Donc, alors la référence, c'est 89, c'est aussi les révolutions du 19e, c'est d'autres. Ou alors, c'est des révolutions plus intimes, c'est des révolutions de notre vie personnelle, c'est d'autres formes de révolution. Et alors, tu disais justement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est finalement, qu'est-ce qui se fabrique là, dans cette dynamique comme sujet politique alors, là, d'emblée, et c'est une discussion qui a été présente dans les mouvements que moi j'ai étudiés, je ne sais pas du tout, c'est l'idée que d'emblée, ces revendications étaient politiques, même si elles n'avaient pas l'allure du politique comme les 20 centimes. Elles étaient politiques parce qu'elles traversaient tout le système politique, elle concernait tous les partis, et d'un seul coup, la politique devenait ce qui se jouait autour de ces choses-là. Mais quand les mouvements. Alors, il y a certainement sujet politique, et on peut le voir pour les Gilets jaunes, quand le mouvement parvient à ses fins, et les Gilets jaunes sont parvenus à leur fin, au moins à leur fin initiale, qui était l'abolition de la taxe carbone, et puis une fin qui était apparue très rapidement sur le SMIC, etc. Les premiers objectifs ont été. Alors là, on voit bien qu'il y a un sujet politique qui s'impose. Et c'est un sujet politique, comme aussi toute la politique se tourne vers le mouvement même. Enfin, c'est le mouvement même qui dit ce qui est politique à un moment. Ou alors, dans la dynamique des Gilets jaunes, dans son espèce d'aspiration démocratique et de nouvelle forme de discussion démocratique, qui a pris à un moment la forme du RIC, hein, mais le RIC, on le voit moins, ça a été récupéré, il y avait une puissance de récupération de la part du pouvoir, et qui fait que là, il y a quelque chose qui est politique, qui fait du mouvement quelque chose de politique. Mais en fait, sans doute un des mouvements dans cet ordre-là le plus politique, ça a été Maïdan. Il y a eu un moment extraordinaire quand, juste après les fusillades dont j'ai parlé, Yanukovych s'est aperçu qu'il ne pouvait rien faire de plus, et il est parti. Alors, la riposte du pouvoir, enfin, ça a été la riposte de Poutine, la riposte de Poutine qui a envahi la Crimée le lendemain du départ de Yanukovych, et qui a commencé à déclencher la guerre à l'est de l'Ukraine. Ça, on voit bien la riposte des pouvoirs aussi, ça c'est quelque chose de commun. Mais la riposte, la violence de la riposte des pouvoirs, qui ne supporte pas ce type de mouvement, qui ne supporte pas de ne pas avoir en face de lui de représentants, justement, de leaders, de porte-parole. C'est quelque chose qui les ulcère littéralement. Les mouvements se trouvent face à des pouvoirs serrés. Hein, et c'est ça qu'on voit en France. Alors, je finis juste sur Maïdan pour vous montrer en quoi Maïdan s'était réellement constitué comme sujet politique. C'est que après la fuite de Yanukovych, il s'est constitué un nouveau gouvernement, mais le gouvernement a été présenté à la place Maïdan. Chaque ministre a été présenté à la place Maïdan, et chaque ministre a été approuvé par la place. Et il y a quelques-uns qui ont été aussi récusés. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est une force extrême qui était à donner. Et là, l'enjeu, là, d'ailleurs, l'enjeu du lieu, et du lieu qui est la place comme lieu de délibération, il est énorme. Et on le voit dans notre mouvement aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a eu cette montée du mouvement en novembre-décembre, et il y a une offensive du pouvoir contre les ronds-points pour faire disparaître les ronds-points, c'est-à-dire Non pas parce que finalement ils étaient d'une efficacité gigantesque pour bloquer le pays, encore que, mais parce qu'ils étaient des lieux justement de cette démocratie qui ne supporte pas. Et donc il y a un enjeu des ronds-points qui est énorme. D'ailleurs, je connais quelqu'un. Je suis en alerte, et là peut-être c'est une question pour nous tous, disons. Je suis en alerte sur un truc, c'est que j'ai une amie qui a posté au début janvier, justement, quand le nombre des ronds-points diminuait, elle a posté une annonce sur Gilets jaunes 94. Et alors, les ronds-points, où on en est? Et ce truc n'a duré 20 minutes. Il a disparu. Et c'est-à-dire qu'il y a une instance, probablement Facebook, parce que c'était pas les animateurs du héros. Il y a une instance qui fait disparaître les trucs. Alors, faire disparaître rond-point, ça a du sens. Donc ça serait vraiment intéressant de savoir si ça s'est produit ailleurs, si on peut repérer aussi ailleurs des formes d'intervention du pouvoir dans les réseaux, dans les formes de communication des groupes, savoir comment ça peut marcher. Est-ce que Facebook a répondu à une demande du gouvernement ou pas? En tout cas, là, le seul mot de ce poste était rond-point. J'avais vu apparaître des choses qui paraissaient l'intervention de bots russes. Et en repérant des adresses russes. Alors, quand je les ai recherchées, je n'avais pas relevé. Quand je les ai recherchées, elles avaient disparu. Là aussi, on les fait disparaître au bout d'un moment. Mais là, ça serait intéressant. Donc, en tout cas, voilà, il y a toute une série de choses qui me semblent rapprocher les Gilets jaunes de ces mouvements-là, de ces 10 dernières années. Et ça me semble... Alors, je voudrais encore faire d'autres points. Donc, une des choses qui me semble... importante de réfléchir, c'est qu'est-ce qui est au travail dans ces mouvements, et en particulier, par exemple, dans la recherche d'horizontalité. Et je pense qu'on voit bien qu'on est dans tous les régimes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'au Gilet jaune, on était dans des pays soit autoritaires, soit presque dictatoriaux, ou des démocraties, mais pas dans les pays de la vieille démocratie. Et là, avec les Gilets jaunes, ce mouvement des mouvements sans leader, atteint un pays de vieille démocratie. Et du coup, pays de vieille démocratie veut dire non pas moins de répression, peut-être moins, un peu moins de répression, mais on sait bien à quel point ça... le nombre des blessés, une personne morte à Marseille, etc. Donc on sait bien que la violence, elle est réellement violente, mais en plus une immense expérience à la capacité de récupération, de récupérer les mouvements de la part des pouvoirs. Et ça, on le voit même aujourd'hui, je veux dire qu'il y a quelque chose de récupération... Et intervention pour déconsidérer les mouvements. Quoi. Une des choses qui me semble importante, c'est qu'on voit à l'œuvre dans ces mouvements une critique populaire du XXe siècle, une critique populaire du siècle hiérarchique où tout le monde était obligé de il y avait une espèce d'impératif de hiérarchie, impératif d'une autorité représentée par un chef, etc., aussi bien dans les entreprises, qui étaient des entreprises de masse, que dans les partis, et les partis politiques de la protestation. Hein. C'était le cas dans le communisme, par exemple, le communisme qui se fonde sur Que faire, c'est un livre qui dit qu'il y a une nécessité de chef, traduit en français, qui était, les traductions françaises disent nécessité de dirigeant. Hein, qui adoucit un petit peu la... Et donc, il y a une critique qui est à l'œuvre, qui est partagée, que nous partageons avec beaucoup d'autres pays, et qui est à l'œuvre là, de cette autorité. Et c'est-à-dire qu'un mouvement comme les Gilets jaunes, il ne vient pas de nulle part. il ne surgit pas comme ça, de façon totalement, totalement sans préparation, quoi. Ça s'est préparé longuement. Alors, bon, on peut remonter à 68. 68, ça a été un mouvement en France qui n'a été dirigé par personne. Si on prend l'ensemble du mouvement, il n'a été dirigé par personne. Cohn-Bendit, il a été à un moment le leader étudiant, mais il n'a certainement pas été le mouvement, le leader de 68 dans son ensemble. C'est-à-dire que, et c'est ce moment-là, ce moment d'après 68 aussi, est marqué par l'effondrement, justement, du modèle communiste, c'est-à-dire de cette idée du besoin d'une organisation, de s'organiser, d'avoir des secrétaires et un secrétaire général. Et on est d'une certaine façon dans le deuil. Ce qui commence dans ce processus d'aujourd'hui, c'est un peu d'un travail de deuil de cette forme de révolution et de mouvement. Et donc, la perte de cette forme d'organisation des mouvements populaires, des mouvements sociaux, des mouvements revendicatifs, provoque de nouvelles formes d'imagination, en fait. D'imagination, de formes de lutte, de formes de vie sociale. Et une imagination qui rejoint la critique écologique, hein, la critique écologique du monde industriel et qui répond à... Bon, Et on voit qu'il y a un soubassement d'un mouvement comme les Gilets jaunes, qui s'est créé progressivement, un soubassement horizontal, qui est très peu étudié d'ailleurs par la sociologie, et qui est un travail du social. Et là, je n'évoque pas seulement Occupy, les indignés, ou même Nuit debout de ces dernières années, mais il s'agit d'une propagation assez impressionnante de groupes, de collectifs, d'expériences culturelles, d'entreprises, sociales ou pas, dans lesquelles des personnes agissent sans leader, sans chef, dans la répartition des choses à faire, dans la coopération, la collaboration, dans la décision égalitaire. Et on en trouve dans tous les domaines, hein, que ce soit, je sais pas quoi, les jardins partagés, l'édition, des activités culturelles ou humanitaires. Il y a un très très grand nombre d'objets de vie collective qui émergent et qui se stabilisent depuis de très nombreuses années. Je précise d'ailleurs que pour marquer ce grand moment-là, on peut voir que la notion de chef de famille a disparu de la loi. Hein, depuis 70, il y a une répartition de l'autorité dans la famille, il n'y a plus de chef de famille. Alors, on peut voir, hein, disons, récemment, des choses comme, évidemment, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi des municipalités comme celle de Saillant, la première, celle de Saillant, une municipalité qui essaye de faire sans maire. Je dis essaye de faire, parce que là, au contraire, le maire, il est voulu par la loi. Faire sans maire signifie d'imaginer des tas de formes de commissions, là aussi, égalitaires, horizontales, mais c'est le cas aussi des associations collégiales. Les associations collégiales, c'est un mouvement très récent, et parfois ignoré par beaucoup de gens, et même par les Gilets jaunes. D'ailleurs, il va falloir que... Bon, c'est un autre sujet, parce que... l'association collégiale, c'est l'association sans président et sans bureau. Il y a quelques années, j'ai rencontré des gens qui essayaient de faire des associations collégiales, qui se faisaient répondre par la préfecture, mais c'est pas possible. Regardez la loi, il faut un président de bureau. Et en regardant la loi, en fait, non, la loi n'a jamais prévu ça. La loi prévoit des personnes chargées de l'administration. Mais la loi elle-même... Et alors, donc, il y a tout un mouvement avec des... D'ailleurs, il y a même des associations sur les associations collégiales. Et ça, ça fait partie de ce monde d'expérimentation horizontale avant l'apparition des Gilets jaunes. D'ailleurs, les entreprises elles-mêmes, là, après 68, hein, il y a ce livre, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, qui montre, à mon avis, très bien justement comment le capitalisme s'est adapté à la critique de l'autorité. de l'autorité de l'entreprise pour écraser des hiérarchies ou chercher des nouvelles formes, comme la forme projet, etc. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est à la fois partagé entre les mouvements de ces années 2010 et partagé dans chacun des pays, entre les pays. Alors, et ça, ça forme une espèce de phase initiale, disons, d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Une phase initiale, suivie de la grande phase, où la revendication la plus majoritaire, qui réunit plus de gens, finalement gagne. Si vous prenez tous ces mouvements, ils ont tous gagné. Ben Ali s'est barré, Moubarak s'est barré, Yanukovych s'est barré, le pape Gezi a été protégé, il y a eu une décision au Brésil d'annuler toutes les augmentations de retraite. Alors, ils ont tous gagné parce qu'ils réunissaient des foules, des, je ne sais pas comment appeler ça, des multitudes, des foules totalement inédites, et ils ont tous été, sous une forme ou sous une autre, réprimés, de la façon parfois la plus brutale. Alors, donc, c'est d'une certaine façon une phase première de ces mouvements. Quoi. Et je pense que les Gilets jaunes l'ont passé, cette phase-là. L'ont passé avec les 10 milliards quoi, gagnés, même si on peut les discuter, ok. Mais de fait, les premières revendications des Gilets jaunes sont passées. Alors, on est dans une autre phase, là, maintenant, beaucoup plus incertaine, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus difficile à apprécier, avec des demandes beaucoup moins délimitées, etc. C'est là qu'on est en train d'évoluer, en train de discuter, d'essayer de voir où nous en sommes, accompagné du fait que on n'a plus le lieu même, c'est-à-dire le rond-point. Et c'est pour ça qu'il y a des tentatives de retour au rond-point. J'ai vu ça aussi dans le 94. Disant, revenons au rond-point. Il y a encore Bon Oeil, par exemple, ou de façon assez régulière, Rungis. Je vais m'arrêter là, parce que, disons que ce qu'on trouve dans ces mouvements, et ce qui est très frappant, c'est donc un retour sur les lieux, ou sur les territoires. Alors, évidemment, en France, les territoires, c'est premièrement, d'abord des territoires ruraux ou urbains. Hein, et alors que dans d'autres mouvements des places, c'est des places justement urbaines. Et on voit qu'il y a toute une réflexion sur le territoire rural, il y a toute une réflexion sur le territoire urbain. Moi, je vois au Brésil qu'ils allaient chercher David Harvey, qui est un géographe qui a beaucoup pensé à la ville, ou même Henri Lefebvre. J'ai jamais vu autant lire Henri Lefebvre, qui était un intellectuel français, qui était longtemps communiste, etc., et qui a beaucoup réfléchi sur la ville. Je n'ai jamais vu autant lire au Brésil dans les années 2013-2015, disons. Hein, retour sur des lieux, sur des territoires, et ça me fait penser à ce que dit Descola, Jean-Philippe Descola, il parlait du grand défi du siècle, qui était d'imaginer des institutions rendant possible la vie commune entre des collectifs territorialisés relativement autonomes. Cette idée d'un futur qui soit fait de collectifs territorialisés. Et ça me fait penser aussi, et là c'est aussi l'historien qui parle, qu'on est là dans un moment de l'histoire du capitalisme. Et l'histoire du capitalisme, Braudel identifiait la nature du capitalisme comme une manière de se détacher des territoires, justement. Enfin, territoire, il n'utilise pas le mot territoire, c'est un mot, mais de détachement de l'emprise du local. Et il parle de ça dès le Moyen-Âge. Hein, les négociants qui font du commerce au loin, et donc qui détachent le jeu de l'argent du territoire. Et là, on peut identifier historiquement, dans l'histoire du capitalisme, toutes les phases de ce détachement dont le capitalisme financier des 40 dernières années, depuis 40 ans, est sans doute une des dernières phases. Donc, on est là dans des... aussi dans de la grande histoire, quoi, si vous voulez. Hein. Et donc, vous voyez que l'enjeu du rond-point, c'est un enjeu énorme, puisque c'est là que se fait la... Que se fait la délibération, c'est là que se fait l'expérimentation démocratique, même si, et on voit bien avec toutes les discussions qu'on a, je suppose que vous avez depuis samedi, sur les gilets jaunes, etc., etc., sur ce qu'on est, on voit bien que ce qui manque, certainement aujourd'hui, c'est justement le plus de ronds-points, quoi, plus de ronds-points où... on parle ensemble en présence, pas simplement sur les réseaux, sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook. Et on voit qu'il y a un enjeu stratégique et que la solution, c'est pas plus de chefs, c'est pas plus de coordination des structures. Enfin, c'est quasiment une opinion que je donne. C'est pas non plus des représentants ou des porte-paroles, mais c'est vraiment plus de délibération et plus de... d'articulation entre ce qui se fait comme des délibérations sur les réseaux sociaux, sur les groupes, etc., et ce qui peut se faire, alors, certainement dans les universités, dans les maisons de sciences sociales, comme c'est le NSH par ailleurs, mais aussi sur place. Quoi. Je pense que le lieu de la rencontre, le lieu des rencontres, sur place, parce que c'est territorialisé, parce que c'est... et qu'à partir de cette territorialisation, on peut faire des liens avec le monde entier, disons, entre les territoires et le monde entier. Et je pense que c'est... voilà. Bon, en gros, c'est l'essentiel de ce que je veux dire.